Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler un petit peu de nutrition saine. J'ai récolté quelques petites notes comme chaque semaine. Et encore une fois, on parle de nutrition, je sais, mais c'est un petit peu le cœur de mon sujet avec l'entraînement et puis la remise en forme physique, enfin bon, tout ce qui va autour de ça. Bon, là, j'ai trouvé pas mal de petites choses qui me semblent... En fait, il y a un sujet qui me tenait... un petit peu plus à cœur que les autres, et puis autre chose que j'ai vu. Alors, on va commencer par un truc un petit peu plus complexe, qui est de l'ordre de la psycho, je reprends mes notes pour pas vous perdre. Alors, je vais directement ouvrir l'article, qui s'appelle « Pourquoi les consommateurs français aiment le bio, mais en achètent peu ?» Donc, on va commencer par ça. Rapidement, avant de démarrer, je tenais juste à dire que j'avais sorti ce week-end de la vidéo sur le cardio haute intensité, le HIIT, pourquoi je l'utilise actuellement pour couper un petit peu les zones graisseuses qui pourraient rester à droite à gauche afin de préparer le printemps et l'été. Mais le but, c'est pas d'avoir que le programme qui va avec, parce qu'il y a un programme, c'est aussi d'avoir les nouvelles données scientifiques, mais les dernières recherches que j'ai pu faire sur le sujet, et vous apporter un petit peu plus de clairvoyance, on va dire, par rapport aux arguments qui disent que le HIIT, c'est super, alors que ça marche pas pour tout le monde, malheureusement, et que finalement, il n'y a pas que le cardio basse intensité pendant 45 minutes qui est intéressant, même si ça peut servir dans certains cas de figure. J'essaie vraiment de faire quelque chose de... Enfin, c'est pas j'essaie, c'est je l'ai fait, de concis et de clair pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans, qui veulent ajouter une variable supplémentaire dans leur transformation physique. Et voilà, donc je vous ai mis le lien en description avec tous les autres. Bref, on démarre. Alors, pourquoi les consommateurs français aiment le bio mais en achètent peu ? Donc, c'est un article que j'ai trouvé, donc je vais citer, qui a été écrit par Aurélie Merle, professeure de marketing et comportement du consommateur à Grenoble, et Mathilde Piotrowski, maître de conférence en sciences de gestion, Université Jean Monnet, Saint-Étienne. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous avez les auteurs. Donc... la perception des produits bio semble faire consensus en France. 87% des Français considèrent qu'ils contribuent à préserver l'environnement et 82% pensent qu'ils sont meilleurs pour la santé. Pourtant, le bio ne représente que 4,4% de la consommation générale de produits alimentaires et la fréquence de consommation demeure faible. Comment expliquer un tel écart entre des croyances positives à l'égard du bio et une consommation quotidienne assez faible ? Donc, ouais, j'ai pris quelques notes dans l'article parce que l'article est assez long, on va dire. Donc, j'ai pris quelques notes pour que vous puissiez avoir des chiffres clés. Donc, le marché français du bio alimentaire pèse 9,7 milliards d'euros en 2018 et est en croissance de plus de 15% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, ils disent aussi que les résultats de jeudi 20 février ont été donnés, montrent que ce sont près de 9 Français sur 10, 89%, qui consomment des produits biologiques en 2020, contre un peu plus d'un sur deux en 2003, l'année de la première édition. Donc bon, après des produits bio, faut voir un petit peu ce que ça dit, parce que enfin là, ces chiffres, ils ont l'air plutôt encourageants, mais moi je pense que des fois ça doit être assez ridicule dans le quotidien des gens, la consommation de bio, et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas manger bio, donc il y a quand même dans ces chiffres quelque chose d'encourageant et se dire bon bah tout va bien, mais je pense que c'est pas la réalité. Et on va voir pourquoi c'est pas la réalité dans la suite. Alors, il y a trois types de pratiques qui sont aujourd'hui mises en cause par les consommateurs. Premier point, les pratiques agricoles qui ne permettraient pas d'obtenir un produit 100% bio. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le deuxième point, c'est les pratiques commerciales qui confrontent deux formes d'acteurs. D'un côté, ceux qui profiteraient de l'engouement pour le bio pour accroître leur marge, donc grande distribution principalement, et de l'autre, les consommateurs qui se feraient duper. Troisième point, les pratiques de contrôle mises en œuvre par les organismes de labellisation qui soulèvent un certain scepticisme. Alors, il y a à peu près 6%, enfin non, pas 6%, 6 personnes sur 10 qui ont une confiance médiocre. Enfin, on va dire dans les labels, etc. Les Français déclarent ne pas avoir assez d'informations sur 50% l'impact environnemental et sur la santé, 48% l'origine des produits biologiques, 62% la réglementation en agriculture biologique et 60% le contrôle des produits biologiques. Voilà. Donc après, il y en a qui disent que le plaisir passe pas par le bio. Je voudrais bien acheter bio, mais je peux pas. Je peux être en bonne santé autrement qu'en consommant bio, etc., etc. Et après, il y a les principaux freins à la consommation de produits biologiques avec des chiffres. Donc 84% parce que c'est trop cher, 62% qui doutent sur le fait que les produits soient totalement bio, 37% qui n'ont pas le réflexe d'en consommer, 27% l'offre qui ne correspond pas aux besoins et 23% par manque d'information. Donc voilà un petit peu ce que j'ai récolté dans l'article. Finalement, moi je me rends compte d'une chose, c'est que aujourd'hui c'est plus ou moins similaire au niveau du discours qu'il y a quelques années. Ce qui revient majoritairement, c'est le prix. Et évidemment, le bio c'est plus cher, donc ça coûte plus cher. Donc tout simplement, c'est pas abordable pour tout le monde. Après, les gens qui doutent sur le fait que ce soit 100% bio, mais ça en fait on s'en fout quelque part. J'ai envie de dire. Quelque chose qui est clairement, pas enrichi, mais clairement salopé par des pesticides, des hormones et tout ça, on va pas se dire « ouais, mais moi je consomme ça parce qu'au moins je sais ce qu'il y a dedans ». Non, il faut toujours, faut se dire que le bio sera toujours mieux que ça. Il y a des gens qui essayent d'avoir le produit parfait, mais la perfection n'existe pas, il y a des normes, il y a des lois, malheureusement on n'y peut rien. À part râler, on peut dire oui, mais c'est pas, il y a encore des résidus de pesticides, etc. dedans, certainement. Mais aujourd'hui, quelles sont les autres options? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, les autres options, c'est quoi? C'est habiter dans un endroit où les terres sont à la fois fertiles et à la fois pas chères, donc acheter et se faire sa propre production. Donc, autant dire que là, c'est peut-être une personne sur 100, une personne sur 1000. Autre solution, c'est quoi? Bah, c'est de mettre toute son énergie pour essayer de faire changer les choses. Ça, malheureusement, c'est pareil. C'est peut-être une personne sur 1 million qui va essayer de faire ça. Bon, on n'a pas 36 000 solutions. Donc aujourd'hui, les gens qui ont un travail, qui leur prend du temps, qui s'entraînent, qui ont une vie de famille, etc., s'ils ont les moyens de consommer le bio qu'on leur propose, moi, à mon sens, c'est la solution qui aujourd'hui reste la plus cohérente. Donc on a le droit de douter sur le fait que ce soit pas 100% bio. Moi, honnêtement, c'est le discours que j'entends régulièrement, parce que c'est vrai que à chaque fois que je reçois des invités ou que je parle avec des personnes et tout ça, et qui me parlent de mon alimentation, qui me disent comment tu fais pour rester en forme, etc. Bon, bref, je leur explique ce que je mange, et notamment, je dis, j'essaie au maximum de prendre des aliments bio quand le budget est raisonnable, on va dire. Évidemment, je leur dis, moi, le poisson bio, c'est compliqué, ça coûte extrêmement cher, je fais du sport, donc j'ai un apport en protéines qui est assez élevé. Le poisson bio, non, je préfère manger un peu plus d'œufs, parce que les œufs, rapport qualité-prix au niveau bio, c'est peut-être plus intéressant, moins coûteux que le poisson. Mais bon, voilà, la viande et le poisson, je fais avec ce que je peux, comme tout le monde. Et donc, le discours que j'ai en échange, c'est ouais, mais moi, le bio, non, parce que est-ce que c'est vraiment bio? Est-ce que ça vient pas d'un autre pays où les normes sont pas les mêmes? Ça, en fait, c'est de la branlette, quoi. Enfin. Et à un moment donné, si, en fait, ça, c'est pour se rassurer qu'on n'a pas envie de faire la démarche, quoi. Tout simplement. Moi, je pense que le bio, enfin, manger sainement engage un effort comme tout, hein. Ça engage un effort dans le sens où il faut être prêt. Et là, attention, on parlera après des problèmes de budget plus tard, mais il faut être prêt à se dire que on ne peut pas améliorer sa nutrition, au niveau qualité nutritionnelle au quotidien sans faire un effort en termes porte-monnaie. Enfin, c'est à un moment donné, c'est compliqué. À part si vraiment aujourd'hui vous mangez que des plats transformés, le simple fait de passer sur des produits plus bruts, même s'ils sont pas bio, ça serait intéressant. Mais une personne qui consomme déjà des aliments entre guillemets qu'on pourrait qualifier de sains parce que c'est des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, des céréales de bonne qualité, etc. À partir de là, la personne, si elle veut faire un effort supplémentaire et donc passer au bio, eh ben, il y aura une répercussion sur le budget. Donc, forcément, ça aura un impact sur son reste à vivre ou son reste à, pour ses plaisirs, ses activités et tout. Est-ce que la personne est prête à se dire, bon, ben, terminer de faire telle activité parce que moi, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de mon budget dans ma santé. Donc après, c'est un choix personnel et il faut être prêt à refuser certaines choses. Bon, ceux qui m'écoutent, je le sais, vous êtes pas à dépenser 300 balles en boîte de nuit tous les week-ends. Donc vous avez pas non plus, j'imagine que vous n'êtes pas dans cette configuration-là, mais il y a des personnes qui ont ce genre de discours, et quand on regarde, c'est contradictoire, parce qu'ils sont capables de dépenser des fortunes dans des plaisirs, dans des drogues, des choses comme ça, ou même, je sais pas moi, d'acheter des jeux vidéo hors de prix qui coûtent presque le plein de courses pour une semaine. Bref, voilà. Il faut remettre un petit peu, il faut pas dire j'ai pas le budget ou j'y crois pas, faut simplement dire que mes centres d'intérêt du moment sont axés sur autre chose et le budget que j'ai passe dans un autre domaine, tout simplement. Moi, pour rappel, je vous fais pas une leçon de morale, hein, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, je vais vous donner un petit peu un exemple par rapport à mon style de vie il y a quelques années. Quand je suis revenu j'avais déménagé de Toulouse à Montpellier. J'étais arrivé, bon, j'avais un salaire proche du SMIC et j'ai trouvé un appartement non pas qui me plaisait, mais un appartement qui me permettait d'avoir le maximum de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que j'ai recherché un appartement dans la localisation où je voulais, donc ça déjà c'était important. Je voulais une ville en particulier par rapport à mon job, par rapport à mes activités et tout ça, mais Je ne pouvais accepter un logement dans ce patelin-là que s'il était financièrement accessible. Et une des raisons, c'était que quand j'étais à Toulouse, je payais à peu près 550 euros de loyer. Et je me rendais compte d'une chose, c'est que au niveau alimentaire, c'était juste quoi ce que je pouvais acheter, et je savais très bien que j'avais envie de faire du sport, de me remettre en forme et tout, et je savais qu'il y allait avoir un coût, donc il fallait que j'augmente mon pouvoir d'achat, donc mon budget maximal, il fallait que je gagne en fait sur le loyer. Et j'avais gagné puisque j'étais passé de 550 à 487 euros de loyer. Donc il y en a beaucoup qui vont rigoler, ils vont dire non mais c'est pas énorme. Ouais, ben en fait c'est pas énorme, mais calculer, ça vous fait, quand vous êtes célibataire, ça vous fait un plein d'une semaine de course facilement, quoi, hein, en plus de gagner. Donc j'ai pu, grâce à cette économie, donc en refusant d'avoir le bel appartement qui claque quand on est célibataire et jeune, j'avais refusé ça, donc j'avais récupéré un petit appartement que j'avais bien décoré, qui passait bien, hein, c'était un truc, c'est là où j'ai démarré le site internet. Sachez une chose, c'est que c'est dans cet appartement-là, le tout premier que j'ai eu, que j'ai démarré en 2011, on va dire, mon site internet, que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à me filmer, etc. C'était là-bas. Hein. Justement, j'avais gagné de l'argent. Et moi, sachez une chose, c'est que dans toute ma vie, je n'ai jamais... Enfin, si, une fois, j'ai bénéficié des aides pendant 6 mois, donc c'est-à-dire de des aides, comment on appelle ça, la CAF ou je sais plus trop quoi. Et en fait, je me suis vite désinscrit parce que je les ai perçus pendant 6 mois. Et en fait, les 6 mois d'après, on m'a demandé de leur rendre... Parce que justement, je gagnais peut-être un petit peu plus par mois. Je sais plus ce qui s'était passé. Donc j'avais dit oh là là, je suis pas capable de faire ça, moi, de recevoir puis de rendre après. Donc j'avais remboursé ce que je devais. Il fallait que je leur rembourse de l'argent. Et après, je pouvais encore bénéficier d'aide, mais je leur ai dit oubliez-moi, j'en veux plus parce que j'ai pas envie de mauvaises surprises. Quand on n'a pas d'argent de côté, malheureusement, on n'a pas envie de ce genre de surprise, quoi. Et donc du coup, après, je me suis fait tout seul, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à sacrifier quelque chose pour obtenir un petit peu de pouvoir d'achat dans mon quotidien. Bon, c'était juste ça, hein. C'est moi, je vous explique ma stratégie. Il y en a qui vous diraient non, mais tu peux aussi faire d'autres choses. Ben en fait, moi, les autres choses que je faisais, c'est que je travaillais de jour et en fait, j'allais travailler de nuit en plus pour gagner un petit peu plus d'argent. Donc j'essayais de me démerder comme je peux pour augmenter, on va dire, mon budget mensuel. Bon, bref, on passe à la suite. La suite, je vais vous parler des restos du cœur parce que alors. Sachez une chose, je suis pas affilié avec les Restos du Cœur. Enfin bon, bref, je sais pas si on peut dire affilié. En fait, je suis pas affilié à ça, mais je sais qu'en ce moment, enfin, je sais pas si c'est terminé, mais il y avait une campagne. Et en fait, pourquoi j'en suis venu à cette idée-là, parce que d'en parler, parce que j'ai vu plusieurs choses. La première chose, c'est que, enfin, vous savez, moi, je fais une partie de mes courses, donc les courses, on va dire sèches, les produits, on va dire du surgelé et tout, sur une plateforme en ligne que je vais récupérer une à deux fois par semaine. Après, je vais dans un magasin bio faire quelques achats. Des fois, je vais dans des magasins de surgelé faire d'autres achats. Enfin, je tourne un peu à droite à gauche pour faire mes achats. Pour l'alimentation, sachez une chose, c'est que moi j'accorde beaucoup d'importance à l'alimentation, chose que ne font pas certaines personnes. C'est un choix personnel, je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie d'avoir un tout en un et de faire les courses une fois par semaine, le samedi par exemple, et tout au même endroit. Chacun fait son truc, je suis pas en train de juger là, loin de là, c'est pas du tout l'intérêt de mon discours. Et donc je fais mes courses sur cette fameuse plateforme en ligne et je vois que à la fin de la commande on me dit voulez-vous faire un don au Resto du Cœur, et moi je suis toujours un peu comment dire réfractaire aux dons d'argent. Ça me dérange pas de donner de l'argent. Après, chacun fait avec le budget qu'il peut. Hein. Moi, c'est jamais des très gros dons que je fais, mais l'argent, j'ai toujours cette problématique de la traçabilité. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, il faut pas être anxieux comme ça, ça aide des gens. Oui, je sais, mais j'aime réduire en fait la chose. Je préfère donner du concret. Et en fait, je trouvais qu'ils avaient fait quelque chose de bien, c'est qu'ils proposaient des paniers préfaits pour pré-remplis en fait pour les Restos du Cœur. Donc il y avait un petit peu à tous les budgets. Et puis on choisissait si on voulait le panier enfant, le panier petit déjeuner, le panier X, le panier Y. Donc moi j'ai pris deux paniers pour les enfin bon bref ça on s'en fout, mais je prends ces paniers là et puis j'ai vu en fait sur place que c'était en plus ils viennent me les montrer les paniers puis ils les mettent dans le truc, enfin je demandais pas de les voir, je les crois, mais je veux dire ils venaient me les montrer avant de les mettre dans le truc. Mais moi ce que j'ai remarqué avec ça je vous encourage pas à faire des dons et tout, hein, c'est pas le but, mais ce que j'ai remarqué, je me suis dit mais c'est quand même bizarre parce qu'on me propose jamais de fruits et légumes frais. Donc en fait c'est des conserves, en fait c'est que des denrées non périssables quoi. Donc je me suis dit ils doivent quand même avoir une stratégie. Ces gens-là ils ont quand même le droit, ils pourraient peut-être avoir l'opportunité de manger quand même des aliments un petit peu plus sains. Parce que rappelez-vous, j'en ai parlé dans un autre épisode que moins on a d'argent en France et plus on mange mal et plus il y a de l'obésité. Et que plus le budget familial, le budget du foyer est élevé, plus la nutrition des parents et des enfants est de bonne qualité et moins il y a de surpoids, etc. Alors qu'on pourrait penser l'inverse, hein, mais c'est fini la période de la famine où les gens sont minces parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Aujourd'hui, tout le monde a à manger, mais la qualité n'est pas la même. Et en règle générale, le bas prix est plutôt nocif et le haut de gamme est plutôt positif. Donc c'est là où, enfin voilà, c'est un peu ambigu par rapport à avant. Et en fait, je lisais quelque chose, c'est que dans un article là, il disait une association recommande la création d'un chèque fruits et légumes. Donc sur le principe du chèque énergie, pour ceux qui connaissent, un chèque fruits et légumes pourrait voir le jour. C'est la proposition faite par l'association interprofessionnelle des métiers du fruit et légumes, donc Interfel, à l'occasion du salon de l'agriculture, qui, je le rappelle, a été, je crois, annulé avant la fin à cause du coronavirus. Et ce chèque serait disponible pour les foyers en grande difficulté pour leur permettre d'avoir une alimentation plus diversifiée. Le programme national nutrition santé recommande en effet de consommer 400 grammes de fruits et légumes par jour. Bref, en fait ça, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, moi j'encouragerais. Enfin, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ce chèque fruits et légumes et d'un petit peu, comment dire. En fait, le problème, c'est que les chèques restauration et tout ça pour les gens dans le besoin, Il y a des gens qui vont un petit peu aller aux automatismes, mais dans les automatismes, s'ils n'ont pas eu le budget pour acheter des légumes par le passé, bah, si aujourd'hui on leur donne un chèque, ils vont plutôt naturellement, un chèque sans qu'ils soient orientés vers les fruits, les légumes, etc. Si on leur donne juste un chèque un peu comme un ticket resto, ils vont aller s'orienter, ça c'est psychologique, vers des habitudes. C'est-à-dire que s'ils ont eu l'habitude de manger des boîtes de conserve et tout ça, ils vont continuer avec cet argent-là d'aller vers des boîtes de conserve et tout ça. Alors que là, d'orienter les gens, je trouve que ça peut être une bonne idée, mais on pourrait encore aller plus loin dans la réflexion avec peut-être un accompagnement d'avoir comment dire, peut-être utiliser ces chèques en si on pourrait dire les majorer, c'est-à-dire que si vous choisissez tel et tel aliment, vous avez, je sais pas, 30 € de budget, mais par contre, ce même chèque peut avoir une valeur de 45 € si vous achetez des fruits et légumes. En fait, d'utiliser ça pour orienter psychologiquement les gens à se tourner vers une alimentation saine, parce que ces gens-là, certaines personnes, enfin, je dis ces gens-là, mais ça peut être moi, ça peut être vous qui m'écoutez, et c'est pas, je veux dire, personne n'est à l'abri de pouvoir profiter de ce genre de choses, et de devoir profiter un jour de ce genre de choses, donc voilà. Et je pense qu'il faudrait faire un petit travail là-dessus, sur ce côté majoré quand il y a des bons réflexes, parce que encore une fois, ça coûte cher à la société française, hein. Enfin, je veux dire à la Sécu, ça coûte cher, hein. Les obèses, les personnes en mauvaise santé, ça leur coûte de l'argent. Donc forcément, ça peut être profitable pour tout le monde, mais c'est surtout pour les individus, quoi, que les personnes qui ont peu de budget puissent accéder. Je dis pas au bio parce que le bio, pardon. Le bio est encore certainement trop cher, bien qu'il en pleine saison on peut avoir du bio pas trop cher, mais d'avoir, et on verra d'ailleurs comment avoir du bio, comment on peut solutionner du bio accessible pour les personnes qui ont moins de moyens. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça leur permettrait de passer d'une barquette de lasagne à peut-être des courgettes, peut-être apprendre à cuisiner ce genre de produits, etc. Bon, bref, on va passer au resto du cœur. Parce que les restos du cœur, je reviens sur le sujet que de tout à l'heure, je me disais, mais mince, mais pourquoi on nous demande jamais de donner des fruits et des légumes, de la viande fraîche, des œufs, etc. Eh ben en fait, parce que quand il y a des périodes de collecte comme ça, la nourriture va certainement un peu transiter et donc être un petit peu stockée, etc. Donc ils peuvent pas se permettre d'avoir des choses comme ça. Donc on pourrait se dire, non mais ça voudrait dire que toutes les personnes, alors vous qui m'écoutez, peut-être que vous y allez au Resto du Cœur et tout ça, et vous avez déjà la réponse à ma question, mais nous, personnes qui avons encore échappé, on va dire, à des périodes comme ça jusqu'à aujourd'hui de où on manque un petit peu de revenus. Alors je rappelle, les Restos du Cœur, c'est pas pour les personnes à bas revenus, longue durée, etc. Ça peut être également, par exemple, un divorce et ça se passe mal, des frais très très lourds pour une des deux personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez plus les moyens de vous nourrir ou de nourrir quand vous avez vos enfants, de les nourrir. Et ben, les Restos du Cœur, ça peut être une stratégie et une aide sur une courte période pour vous. Pour sortir la tête de l'eau. Et encore une fois, comment dire, faut pas croire que ce sont que des personnes vraiment dans un extrême besoin, etc., qui vont là-bas. Ça, c'est des personnes du quotidien, des personnes de votre bureau. Ça peut même être moi qui suis en train de parler. Ça peut être n'importe qui va au Resto du Cœur. Donc, il faut un petit peu sortir cette image de la tête, et notamment pour les personnes qui doutent, hein, qui traversent une mauvaise période actuellement et qui se disent « j'ai pas envie d'être réduit à aller au Resto du Cœur », par exemple. Il faut pas raisonner comme ça, parce que c'est justement fait pour ces moments-là. Et on nous parle beaucoup des dons, etc., mais je pense que le plus difficile, c'est pas de faire des dons, le plus difficile, c'est d'être capable de se pointer là-bas et d'aller chercher à manger quand on est dans le besoin. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté pour beaucoup de personnes, parce que il y a l'estime de soi, il y a tout un tas de choses. Et d'ailleurs, ils ont carrément un programme sur le site, j'ai vu, par rapport à l'estime de soi, sur le site du Resto du Cœur, hein, je précise, pas sur mon site. Et donc, je veux en venir à ça parce que comment on fait en fait pour... Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je suis tombé sur un article qui disait que... alors c'était en 2018, hein, c'est vieux, mais ils disent que les gendarmes avaient offert 1,5 tonne de nourriture au Resto du Cœur. Donc en fait, c'était les forces de l'ordre, après avoir interpellé des vendeurs à la sauvette, ont saisi 21 caisses d'oranges, 67 caisses d'artichauts, une caisse de pommes de terre, 12 caisses de pommes, 6 caisses de citron, 32 caisses de clémentines, 5 caisses d'ananas, 28 caisses de tomates et 7 caisses de courgettes. Au total, 179 caisses de fruits et légumes représentent pas moins de 1,5 tonne de nourriture parfaitement consommable. Que faire de ce trésor de guerre? À cette question essentielle, les gendarmes ont trouvé la meilleure réponse possible avec l'accord du procureur de la République. Qu'ils ont offert le tout au Resto du Cœur de Nice. Donc, bon, déjà, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais après, je me suis dit, ben, ils ont réussi à donner ça, donc ça veut dire que c'est possible de donner des denrées périssables au Resto du Cœur. Donc, je suis allé fouiller un petit peu sur le site internet des Restos du Cœur, donc j'ai voulu savoir un petit peu comment ça se passait. Et en fait, pour les dons comme ça périssables, alors j'imagine que vous, si vous, par exemple, vous avez un potager et tout, vous pouvez le faire aussi, mais là, je veux parler à tous ceux qui sont maraîchers ou qui ont une boutique, qui a des fruits et légumes. Vous pouvez faire des dons agricoles, alors le lait, le blé, les céréales, tout, enfin tous ces trucs-là. Fruits, légumes, œufs, viande, poisson, enfin bon, toutes ces choses-là. Les Restos du Cœur, ils viennent... en fait, l'avantage, c'est que vous, déjà, vous allez vous sentir bien parce que vous allez faire une bonne action, vous allez aider des gens dans le besoin à manger plus sainement grâce à vous. Mais c'est surtout que si vous êtes un peu ric-rac aussi au niveau de votre société, il y a quand même des avantages fiscaux pour ça. Donc ça peut être intéressant de voir ces deux côtés-là. Donc vous gagnez peut-être, alors ce que vous gagnez le plus, je vous le dis honnêtement, c'est quand à la fin de votre journée, quand vous avez fait un don comme ça, je pense que vous allez bien dormir en sachant que vous allez aider des centaines de personnes peut-être à bien manger grâce à votre production. Mais deuxième chose, c'est que vous pouvez également peut-être y gagner au niveau fiscal. Donc ça, je vous encourage à aller sur le site, je vous ai mis un lien. Mais alors, le plus intéressant, c'est que comment on fait un don en nature au Resto du Cœur? Alors, si vous êtes producteur de fruits et légumes, pour un don inférieur à 5 palettes, vous pouvez faire un don volontaire au Resto du Cœur en vous rapprochant de l'équipe bénévole proche de chez vous. L'entrepôt pourra mettre en place la logistique nécessaire à la récupération de votre don pour le distribuer directement aux personnes accueillies dans les centres des restos. Donc, ce que je fais, j'ai mis un lien directement dans la description de cet épisode où vous pouvez regarder où sont avec votre la géolocalisation là, où sont les centres les plus proches de chez vous. Je vous dis pas d'y aller demain, mais juste ayez conscience, juste savoir le localiser le proche de chez vous. Regardez un petit peu vite fait l'adresse sur Google Maps ou quoi, vous avez le lien de toute façon dans la description. Comme ça au moins dans votre tête vous savez où il est. Parce qu'on sait jamais, un jour peut-être que moi ça m'est déjà arrivé qu'on me rapporte, tiens, je sais pas quoi en faire, je te donne je sais pas moi 10 kilos de courgettes. Bah moi c'est gentil, mais moi j'ai 5 kilos, ça me suffit largement. J'ai pas envie que ça pourrisse, au moins je sais où aller si on me donne tout ça. Mais pour les personnes qui m'écoutent et qui ont un métier où il y a justement ce genre de produits alimentaires, donc fruits, légumes, viande, œufs, poissons, il y a même pas de logistique à avoir, c'est-à-dire que vous les appelez, ils s'occupent de tout, ils viennent chercher, etc. Donc enfin voilà, et encore une fois, vous aurez ces avantages-là pour votre société, mais c'est surtout que vous allez pouvoir donner. Et enfin, si jamais un jour vous vous retrouvez dans la situation de ceux qui vont devoir aller chercher à manger au Resto du Cœur, votre position va changer. Et moi, j'étais un petit peu, au début, quand je voulais faire ce podcast, j'étais un petit peu à pousser le coup de gueule pour dire « Mais comment on fait pour donner des fruits et légumes ? C'est inadmissible qu'on puisse pas en donner. » Et puis, j'ai fait des recherches avant de gueuler comme un con. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait cette stratégie-là. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que, ben voilà, si par exemple, vous avez une forte production de fruits et légumes et que vous savez que demain, vous pouvez plus les mettre sur l'étal parce qu'ils vont être un petit peu plus abîmés que les autres, mais ils sont largement consommables, mais un petit peu plus abîmés visuellement, donc les clients vont pas les consommer, de les apporter au Resto du Cœur. Alors certainement qu'il y a des cuistots, il y a des choses comme ça là-bas, peut-être qu'il y a des personnes, des bénévoles qui jouent le jeu de faire des boîtes des confitures ou des conserves, j'en sais rien, il y a peut-être des gens qui le font, hein, des bénévoles, donc ça peut servir. Et je vous garantis que vous allez vous sentir bien de faire ça, de faire ce genre d'action, vous allez vous sentir bien. Les bénévoles et tout, je pense que ceux qui le font à la fois pour aider, mais aussi parce qu'ils en retirent une expérience très enrichissante au niveau d'eux, en fait, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et je pense que c'est une bonne chose, tout le monde est gagnant. Mais voilà, je pense qu'il y a cette solution-là. En fait, moi là, je suis pas là pour faire la morale. Hein. Encore une fois, je me répète parce que j'ai pas envie, j'ai surtout pas envie d'être mal compris. Mon but là, c'est juste d'informer, parce qu'avant moi, j'étais pas du tout informé sur ça. C'est vrai que je voyais uniquement des produits comme je vous ai cité tout à l'heure, donc conserves et tout ça, souvent du bas de gamme. Donc je me dis c'est bien, on fait des dons, mais moi j'aimerais bien faire des dons de meilleure qualité en termes d'aliments, en faire peut-être moins, mais de meilleure qualité. Et finalement, en fait, je me rends compte que ça sert à rien de gueuler comme ça, comme un con, puisqu'il y a d'autres choses. Donc, le but aujourd'hui, moi, juste le message que j'aimerais passer, c'est si vous êtes maraîcher, je pense que c'est une bonne idée et vous ferez vraiment une bonne action pour les Restos du Cœur. Enfin, en tout cas, pas pour les Restos du Cœur, mais pour les personnes qui y vont, de leur permettre de manger plus sainement au quotidien, et notamment si vous avez quelque chose de bio en production. Autre chose. Si vous n'êtes pas maraîcher, mais que vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de boulot-là, alors je dis maraîcher, mais ça peut être tous les jobs où il y a où vous revendez des fruits et légumes, hein, et puis même de la viande, œufs, poisson. Parlez. Soit vous leur envoyez mon podcast, soit vous leur en parlez rapidement. Tiens, tu sais que t'as rien besoin de faire. Ils viennent chercher. Tu fais une bonne action, mais en plus tu peux déduire quelque chose. Je sais plus trop quoi. Enfin bon, bref, le gars il se renseignera de son côté. Mais voilà, essayez juste d'en parler parce que plus il y aura de ça, plus les personnes qui manquent de moyens auront la possibilité de bien manger. Et je pense qu'à la base, Coluche, c'est ce qu'il voulait, c'était que les gens aient à bouffer. Et je pense qu'aujourd'hui, il dirait que les gens aient à bouffer, mais pas de la merde, quoi. Et je pense qu'il faut faire passer ce message-là pour que les gens puissent juste en avoir conscience et notamment de savoir juste où est le centre proche de chez eux pour pouvoir faire un don en nature comme ça. Donc voilà un petit peu l'épisode du jour. Il y en a qui vont me dire bon ça parlait pas de muscu, de bouffer tout. Ben je suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui pratiquent la muscu, des sportifs et qui vont au Resto du Cœur chercher leur bouffe. Et je pense que ce genre de message, ça trouvera du sens pour eux. Et donc voilà. Donc je m'arrête ici pour cet épisode. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce fameux cardio haute intensité que je fais. Presque quotidiennement aujourd'hui sans me cramer nerveusement même en étant un petit peu bas en glucides, je vous en parle dans la description, vous avez un lien pour y accéder et puis sinon on se retrouve très prochainement pour les autres épisodes. Très bonne journée à tous, bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que je fais dans l'espace VIP. Donc je vous ai mis un petit lien pour aller continuer à écouter comme ça des audios qui sont réservés aux personnes, on va dire, du petit cercle VIP. C'est des contenus que vous pouvez écouter aussi bien en audio ou en vidéo, hein. Ça c'est à vous de choisir comment vous souhaitez consommer le contenu, mais il y a également des programmes d'entraînement, il y a également des plans diététiques, etc. Et c'est justement une extension du podcast volontairement pour justement les personnes qui veulent pas juste consommer de l'actu, des petits sujets légers, mais plutôt rentrer dans le vif de certaines problématiques pour progresser et pour un petit peu en fait devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis des coachs, etc., etc. Donc vous avez un petit lien directement et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le contenu. Voilà.